vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Avec l'âge survient chez les femmes, avec la baisse d'hormones, des manifestations désagréables. Bouffées de chaleur, irritations, insomnie, lorsque la ménopause s'installe. Certains hommes connaissent aussi des épisodes de fatigue et d'irritation liés à la baisse d'hormones. Lisez à ce sujet le texte de ma collègue Kathleen Couillard sur l'andropause, sur le site de l'agence Science Presse. Mais ce processus normal et incommodant touche surtout les femmes vieillissantes. Ces symptômes inconfortables poussent bon nombre d'entre elles à se tourner vers l'hormonothérapie, une prise d'hormones pour conserver leur qualité de vie et de sommeil. La science est claire, les avantages de l'hormonothérapie pour la santé des femmes l'emporteraient sur les risques. Si le traitement est commencé avant 60 ans, ou moins de 10 ans après le début de la ménopause, selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Cet automne, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a fait paraître un guide à destination des professionnels de la santé pour mieux cerner les risques et les avantages de ce traitement de confort chez leurs patientes. Les traitements d'hormonothérapie, où en est-on en 2024? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, nous intéressons à la santé des femmes qui prennent de l'âge et subissent de nombreux inconforts lors de l'arrivée de la ménopause. Quels sont les bénéfices et les risques de l'hormonothérapie? Nous voulons faire le point avec le docteur Radomir Jacevic. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes obstétricien et gynécologue au CIUS de l'Est de l'île de Montréal et vous êtes aussi spécialisé en ménopause et chargé d'enseignement clinique à l'Université de Montréal, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Donc, bienvenue.
Merci de l'invitation.
On est aussi en compagnie de Geneviève Duplain-Cyr, pharmacienne et professionnelle scientifique à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INSSS. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on dit INS 3S peut-être?
Vous pouvez dire juste Inès.
Inès, entendu. Mm. Donc bonjour à tous les deux. L'hormonothérapie est un traitement de confort pour lutter contre certains symptômes désagréables survenant à la ménopause aux environs de 50 ans environ. Moins tabou qu'avant, la prise d'hormones de remplacement fait parfois et encore beaucoup jaser depuis surtout quelques années en raison ou grâce à un documentaire et à des émissions sur le sujet. C'est l'occasion de parler de la qualité de vie des femmes qui prennent de l'âge. Je vais commencer avec vous peut-être, Madame Duplain-Cyr. Que signifie d'être en ménopause pour une femme?
Ben, c'est-à-dire, en fait, la terminologie, c'est vraiment important ce que vous dites là. Si vous me dites être en ménopause, ce que ça veut dire, c'est de ne pas avoir eu ses règles depuis un an, en fait. Donc là, on peut dire à partir de ce moment-là qu'on est en ménopause ou qu'on est ménopausé. On peut appeler la période qui suit aussi cette année-là, là, sans menstruation, de post-ménopause. Et par contre, souvent, quand on va dire en ménopause, c'est qu'on réfère aussi à la périménopause. Donc ça, c'est toute la période qui entoure finalement la ménopause. Et puis ça commence dès les premières manifestations cliniques là, de la ménopause. Donc les premiers symptômes qu'on peut voir ou les irrégularités dans les cycles menstruels. Et puis ça peut s'étaler quand même sur plusieurs années avant de finalement pouvoir dire qu'on est en ménopause.
Oui. Rappelez-nous un petit peu les symptômes. Est-ce que ça survient toujours vers 50 ans?
Non, c'est-à-dire, ben en fait, les symptômes, puis là, docteur Jacevic pourra renchérir peut-être sur le sujet, mais les manifestations peuvent commencer quand même assez tôt. Donc, la cinquantaine, le début de la cinquantaine, c'est l'âge moyen, là, vers 51, 52 ans, c'est l'âge moyen de la ménopause, en fait, chez les femmes occidentales, surtout. Mais les symptômes peuvent commencer, en moyenne, là, 4 à 6. Bon, ça peut même être plus longtemps avant, mais c'est quelques années avant parfois. Il y a certaines femmes qui n'auront pas de symptômes, hein, ça c'est certain, mais la plupart d'entre elles vont avoir au moins une manifestation clinique. Puis les symptômes les plus communs, ben c'est sûr qu'il y a les traditionnelles bouffées de chaleur, sueur nocturne, même sueur pendant la journée aussi. Les troubles du sommeil qui peuvent des fois être associés justement à ces chaleurs-là, mais qui sont parfois sans chaleur aussi, juste des altérations du sommeil. Il y a aussi des symptômes au niveau de la fonction sexuelle. Et puis, des manifestations aussi au niveau des organes génitaux urinaires. Mais en plus de ça, la fluctuation des hormones peut entraîner une panoplie d'autres symptômes qui sont vraiment très variables et diversifiés là, selon les femmes. Ça peut aller de difficultés cognitives, là, comme des pertes de mémoire ou des difficultés à trouver ses mots, difficultés à se concentrer. Puis aussi des douleurs articulaires, musculaires. Il y a plusieurs femmes qui vont prendre du poids, surtout au niveau du ventre. Oui. Et puis il y a beaucoup de symptômes psychologiques dont les femmes se plaignent, là, soit de l'instabilité émotionnelle ou plus de symptômes anxieux, plus de symptômes dépressifs. Donc ça, oui. On peut vraiment voir ça apparaître le plus tôt avant la cinquantaine.
Entendu. Je vais demander justement au docteur Yarchevitch de compléter. Quelles sont les conséquences donc de la ménopause sur la santé des femmes?
Ben en fait, la ménopause en tant que telle. Si ça se passe bien, ce qui est le cas pour quand même une bonne partie des femmes, comme on le mentionnait, il n'y a pas de conséquences en tant que telles, dans le sens que c'est un processus normal un peu. Donc, si la patiente n'a pas de symptômes, elle verra probablement pas une atteinte de sa qualité de vie en ce sens-là. Mais c'est sûr que l'arrivée de la ménopause, puis le déclin en estrogène, entraîne chez les femmes une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires parce que l'effet protecteur des estrogènes était là pendant toutes ces années. Donc, en enlevant les estrogènes naturellement ou dans d'autres contextes, là, par exemple, suite à une chirurgie, ou donc il peut y avoir d'autres causes qui peuvent mener à la ménopause, eh bien, on peut augmenter. En fait, on voit l'apparition d'augmentation des risques, de maladies cardiovasculaires chez la femme. Et aussi, on commence à avoir un déclin graduel de la densité osseuse qui s'échelonne sur plusieurs années, voire des décennies, en fait. Donc, il y a quand même des effets protecteurs des estrogènes naturels qui disparaissent en quelque sorte, ou en tout cas s'installent graduellement avec la ménopause. Donc, est-ce que ça, on peut voir ça comme un risque de la ménopause? Mm-hmm. En même temps, ça fait partie du processus naturel. Donc, pour le moment, on va y revenir plus tard à l'hormonothérapie. On ne s'en sert pas comme mesure préventive de ces maladies-là, surtout chez les femmes qui n'ont pas de symptômes.
Donc, les os, le cœur, le cognitif du côté aussi peut-être du cerveau, est-ce qu'il y a plus d'anxiété et il y a plus de conséquences?
Donc, oui, il y a des changements, comme on le mentionnait aussi, au niveau de l'anxiété, des troubles de l'humeur, par exemple, ou de la performance cognitive. Donc, les patients vont souvent mentionner avoir un peu des flous de mémoire, des trous de mémoire, surtout des fois la mémoire à court terme, qui peut davantage toucher, mais c'est souvent un processus qui est auto-résolutif, mais il peut durer un certain temps en péri ou ménopause, donc dans cette transition-là, mais ça augmente pas les risques de démence en soi en tant que telle. Donc, les patientes sont souvent inquiètes. Est-ce que je vais avoir une démence plus tard à cause de ces symptômes actuellement? Non, la plupart vont être auto-résolutifs. Exactement. Puis c'est sûr que beaucoup des troubles de l'humeur peuvent... C'est une période, donc, critique en ce sens, une certaine fragilité, due aux fluctuations hormonales, d'autres phénomènes aussi de la vie, la cinquantaine, les enfants qui grandissent, qui peut-être des couples qui se séparent, des changements au niveau de la carrière. Donc, il y a d'autres facteurs stressants qui peuvent jouer quand même sur l'humeur, entre autres. Et on sait aussi chez les patients qui ont déjà eu des troubles, par exemple anxieux ou dépressifs dans leur vie, sont un peu plus à risque de redévelopper à nouveau ces symptômes lors de la transition ou à la ménopause.
Oui. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle d'hormonothérapie, Madame Duplessis?
C'est-à-dire, en fait, on parle des hormones qui sont commercialisées et indiqué là, par Santé Canada pour soulager les manifestations cliniques de la ménopause. En ce sens, c'est les estrogènes, donc soit les estrogènes qu'on dit bioidentiques, là, c'est le 17-bêta-estradiol, ou encore les estrogènes classiques, qui sont les estrogènes conjugués. Et puis, à ça, on ajoute les progestagènes, particulièrement si les femmes ont toujours leur utérus. Encore une fois, il y a des progestagènes bioidentiques, sous forme de progestérone micronisée, puis il y a aussi des progestines synthétiques, l'acétate de minoxiprogestérone notamment.
Oui, qui sont données de différentes manières, c'est ça?
Pardon?
Qui sont données voie orale?
Oui, en fait, la seule chose qui peut être donnée transdermique, c'est les estrogènes dits bioidentiques. Autrement, il n'y a pas vraiment de voie transdermique pour les autres formes d'hormonothérapie.
Entendu. Docteur Yarchevitch, quelle est la différence justement entre l'hormonothérapie bioidentique et la classique, entre guillemets?
Mais le terme bioidentique est arrivé dans les dernières années, ou en tout cas définitivement plus d'une décennie. Tout simplement, ce que ça veut dire, puis on résume, c'est pas une hormone qui est meilleure que l'hormone classique, là, si on peut dire, mais en fait, ça fait référence à la molécule dont on parlait du 17-bêta-estradiol, donc la molécule qui est produite en laboratoire, en usine, il est identique à la molécule que les ovaires ou donc produisaient avant l'arrêt de production naturelle spontanée. Donc, c'est vraiment, ça fait référence à la molécule, mais il faut comprendre que, donc, que ce soit la progestérone micronisée ou le 17-bêta-estradiol, puis il y a d'autres types d'estrogènes, là, qui ont d'autres usages, mais pour le moment, pas en hormonothérapie.
Ça reste chimique.
Donc, on prend dans la nature ce qui se retrouve, donc, des molécules qui sont converties en laboratoire pour obtenir, parce que le 17-bêta-estradiol, oui, il existe dans la nature, mais pas en quantité suffisante pour en produire des millions de comprimés ou de gels. Donc, il y a toujours une transformation qui est faite. Alors, c'est pas naturel au sens exactement. Alors, mais c'est identique à la molécule. Donc, par la suite, il y a eu des études, en fait, qui ont démontré que peut-être certaines de ces molécules, donc dites bioidentiques, confèrent un moindre risque, par exemple, au niveau du cancer du sein. Par exemple, on va prendre cet exemple-là.
Pourquoi il y a un débat actuellement autour de ça?
Autour de l'hormonothérapie ou des...
De l'hormonothérapie identique, de classique.
Mais en fait, je pense, le débat, il est presque résolu, en fait. C'est vrai qu'avec le reportage il y a quelques années de l'automéno, le débat gravitait surtout autour du bioidentique ou pas, j'ai l'impression. Puis en fait, pour beaucoup de nous, pour les cliniciens, ce débat est en fait résolu. Je pense qu'on est rendu à un autre niveau de débat qui est la désinformation sur l'hormonothérapie, la ménopause et la périménopause qu'on voit à travers tous les médias et de toutes sources. Donc, le débat, en ce sens, pour nous, il est réglé, mais le débat venait originalement de l'étude WIKE, qui était la Women's Health Initiative, où on n'utilisait pas les hormones bioidentiques, donc on utilisait les estrogènes conjugués équins. Donc, c'est des hormones qui sont collectées dans l'urine des juments, exactement. Et on l'avait combiné dans donc, un des bras de l'étude à l'acétate de médroxyprogestérone, qui est un progestatif synthétique, entièrement synthétique. Donc, il n'est pas identique à la molécule de la progestérone produite par le corps jaune, suite à l'ovulation. Donc, le débat venait de là parce que dans cette étude-là, on a démontré, puis en fait, on l'avait publié initialement comme... comme quoi l'hormonothérapie était dangereuse, augmenter le risque de cancer du sein de plus de 23 % augmenter les risques d'AVC, augmenter les risques de démence, en tout cas. Mais c'était surtout le focus sur le cancer du sein. Et donc, c'est de là que partait le débat et qui a été maintenu pendant plusieurs années jusqu'à un peu l'introduction plus massive des hormones bioidentiques.
Là. Entendu. À quoi vient répondre le guide publié cet automne par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux sur les bénéfices et les risques d'hormonothérapie, Madame Duplain-Cyr? C'est un guide qui est à destination des professionnels de la santé.
Oui, c'est ça, tout à fait. Ben, en fait, là, il y a deux outils en fait qu'on a publiés pour les professionnels de la santé. Il y a l'outil d'aide à la prise en charge, puis celui dont vous parlez, c'est vraiment... En fait, c'est pas tout à fait un guide, c'est vraiment un outil où on résume les résultats de nos revues systématiques. Sur plus de 26 résultats d'intérêt là, sur l'hormonothérapie. Puis justement, en fait, ce qui le distingue, ce guide-là, ou cet outil-là, des autres outils, c'est qu'on a vraiment voulu mettre en parallèle les résultats distincts pour l'hormonothérapie dite bioidentique, puis en parallèle avec les résultats distincts pour l'hormonothérapie classique. Parce que la plupart des guides, en fait, relatent les risques et les bénéfices, bon, soit de l'hormonothérapie classique, là, qui sort finalement de l'étude WIKE, comme disait le Dr. Yarbevitch, ou encore de tous les résultats ou l'hormonothérapie, toutes sortes combinées, là, finalement. Étant donné le grand nombre de données qui provient des études WIKE et des autres études, en fait, qui ont utilisé l'hormonothérapie classique, mais ces résultats-là étaient très teintés là, par les résultats de l'hormonothérapie classique. Mais étant donné le débat le débat médiatique là, qui disait que l'hormonothérapie bioidentique était meilleure finalement ou plus sécuritaire que l'hormonothérapie classique, ben nous, on a vraiment voulu faire le tour de la question puis aller chercher les résultats distincts là, pour les deux types d'hormonothérapie.
OK. Au point de vue bénéfices et risques, qu'est-ce qui se dégage de ce...
Au niveau des bénéfices, en fait, c'est la même chose, hein, que ce soit de l'hormonothérapie bioidentique ou de l'hormonothérapie classique. Donc, les hormones bioidentiques sont pas forcément ni meilleures ni pires que l'hormonothérapie classique. Donc, pour les bouffées de chaleur particulièrement ou encore les fractures, c'est les mêmes résultats, grosso modo, qu'on obtient avec les deux types d'hormones. C'est vraiment au niveau des risques qu'on peut voir certaines différences. mais particulièrement pour l'hormonothérapie, ben, le 17-bêta-estradiol par voie transdermique.
Okay. Mais donc, les bio, dans, la bioidentique, c'est ça?
La bioidentique, exactement. Mais si on prend la bioidentique, par exemple, par voie orale, on va avoir les mêmes effets au niveau de la formation de caillots, par exemple, au niveau thromboembolique, au niveau des AVC, parce que c'est pas une question de bioidentique ou de classique, c'est une question de transformation au foie lorsqu'on prend le comprimé, finalement, d'hormones par la bouche. Lorsqu'on prend l'hormone par voie transdermique, bien, on évite ce premier passage hépatique là, qu'on appelle, qui fait augmenter les facteurs de coagulation. Et puis donc, on ne voit pas nécessairement d'augmentation de risque thromboembolique ou d'AVC avec la voie transdermique. Mais la voie transdermique, bon, on l'a seulement avec l'hormonothérapie bioidentique de toute façon.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Docteur Djarcevic, vous avez été membre du comité de travail de l'INS. Parlez-vous un peu de l'utilité de diffuser de l'information donc sur l'hormonothérapie auprès des professionnels de santé et peut-être un peu de la désinformation aussi. Est-ce que les non-professionnels sont mal informés?
Mais en fait, comme dans n'importe quoi, il y a beaucoup de travail encore à faire. Mm-hmm. Je pense que l'étude WAI a fait beaucoup de tort sur différents niveaux. Puis là, il y a un rattrapage à faire qui est quand même significatif en termes de formation, d'éducation et d'offres de services. Ceci étant dit, il y a des activités continuellement, plusieurs fois par année, par différentes sociétés, des directives qui sont facilement accessibles. Donc, l'information est là. Et puis, c'est sûr que les cliniques spécialisées de ménopause ne peuvent pas répondre à la demande. Et pour la grande majorité des femmes, la ménopause, pour la grande majorité des femmes, elles n'ont pas de facteurs de risque ou de particularité qui mènent nécessairement à une AVC de deuxième ou troisième niveau. Et donc, il faut permettre à ces femmes d'avoir accès aux soins à la première ligne. Donc, que ce soit via les infirmières, les médecins de famille. Et c'est là, je pense, que l'avantage d'un tel guide existe parce que l'information est quand même... Il ne faut pas lire le document de plus de 100, j'oublie le nombre de pages, là, de 100 quelques qui détaillent tout, 180 ou quelque chose comme ça, mais les deux documents qui sont facilement accessibles et interprétables. Et je pense que ça donne des outils de base pour le commun des médecins ou pour au moins amorcer une forme de thérapie et ne pas dire aux patientes, ben voilà, c'est pas un problème, on traite pas, on passe un autre appel. Donc, je pense que ça diffuse les connaissances, ça simplifie l'information, puis pour permettre un consentement éclairé, finalement. Pour le deuxième volet, la question de la désinformation, ben je pense que ça permet, en effet, en faisant la revue de la littérature, de mettre au clair un peu les débats ou les nuances, d'apporter les nuances, puis je pense que le débat aussi autour de la ménopause vient du fait que c'est pas le diagnostic n'est pas fait par une prise de sang. Oui. Il y a des zones floues continuité de manifestations qui peuvent se manifester donc quelques années avant la fin des dernières règles. Et donc, je pense que ça permet justement à des gens d'en profiter en quelque sorte et dénoncer toutes sortes de théories qui font un petit peu fi de la physiopathologie de base. Et quand on est, je pense, patient ou peu importe, quand on souffre ou qu'on présente des choses qui nous touchent dans notre quotidien, puis qu'on entend des gens raconter ça, c'est sûr qu'on s'identifie à ces problématiques ou à ces énoncés ou à ces symptômes ou à ces plaintes, bref, à ces histoires de vécues. Oui. Et donc, je pense que les gens peuvent facilement embarquer dans ça, puis c'est tout à fait comprenant, mais je pense qu'il faut faire confiance à des documents comme ça et s'assurer que l'information qu'on reçoit comme patient est fiable et valide.
Oui. Mais justement, est-ce qu'il existe quand même des tests pour savoir si une patiente a besoin d'hormones ou pas? Ouais. Sur quoi on peut s'appuyer? Justement, vous avez dit prise de sang, non, mais les symptômes, l'âge, ouais, l'état de santé, est-ce qu'elle vous raconte?
Mais c'est essentiellement clinique, en effet. C'est vraiment la symptomatologie qui va guider, oui, le diagnostic et la prise en charge, mais aussi l'impact que ça a sur la qualité de vie et le quotidien des patientes. Donc, si une patiente a des symptômes de temps en temps et qu'elle fonctionne très bien, peut-être qu'elle ne voudrait même pas prendre l'hormonothérapie, puis c'est correct. Puis les directives le disent, on va viser les symptômes vasomoteurs modérés. En fait, c'est l'indication principale. Hein.
Okay. C'est Donc, c'est les bouffées de chaleur,
les sudations nocturnes, modérées à sévères, qui ont un impact. Il y a d'autres indications qui sont une ménopause prématurée. Aux États-Unis, ils ont aussi pour la prévention de l'ostéoporose, qui n'est pas une indication au Canada. Et donc non, il n'y a pas de test. Et malheureusement, c'est beaucoup fait et ça coûte cher au système. Oui. Mm-hmm. Parce que le problème vient du fait, comparativement à d'autres problèmes de santé, comme le diabète ou par exemple des glandes, ou des troubles thyroïdiens, de la glande thyroïde, un dosage unique permet de poser souvent un diagnostic. Alors qu'ici, les hormones fluctuent, surtout en périménopause, d'un moment à l'autre d'une journée et surtout dans une période plus longue, comme un mois ou plusieurs mois. Donc, ça donne une image à un moment précis, mais mm-hmm. qui n'est pas représentative de ce qui s'en vient ou de l'état où on est nécessairement, définitivement. Donc, c'est rare que les hormones soient indiquées, en fait, à doser en périménopause et en postménopause aussi. Il y a des situations où, oui, on va les doser pour peut-être des patientes, par exemple, qui ne répondent pas à l'hormonothérapie, puis, donc, et le guide le mentionne, ça d'ailleurs aussi, on en parle du dosage dans le guide.
Entendu. Est-ce que, Madame Duplessis, est-ce que vous pouvez me dire comment a été reçu ce guide-là par, je sais qu'il vient de sortir à l'automne, mais par les professionnels de santé? Est-ce que vous avez eu un petit peu de feedback, comme on dit?
Ben, c'est-à-dire, oui, on a eu un petit peu de feedback, quoique ça a été moins mouvementé que ce à quoi on s'attendait.
Oui, il y avait quelques
craintes. Étonnamment.
Oui, c'est ça, mais c'est parfait, dans le fond, parce que je pense que les gens prennent le temps là de familiariser avec les informations qui sont quand même assez nombreuses. Là, on a parlé de l'outil sur les risques et les bénéfices. C'est la première fois que l'INES publie un document de ce type-là qui contient quand même énormément d'informations. Je pense qu'on peut pas se prononcer très rapidement là-dessus avant d'avoir fait le tour, finalement. Toutefois, on a quand même eu certains commentaires là à la suite de conférences et tout ça. Puis les gens reçoivent vraiment bien ces outils-là. Docteur Hercevitch, je te dis tout à l'heure que ça répond à un besoin des professionnels de première ligne. Et c'est ce qu'on a vu là dans la réalité. Les gens sont heureux d'avoir ce condensé-là d'informations qui les aide finalement à prendre en charge ou à suivre les femmes qui veulent peut-être prendre des hormones ou en fait qui en prennent ou même seulement les femmes qui ont des questions ou des interrogations. Là.
Oui, parce que ça répond à des inquiétudes des femmes finalement sur ce que c'est, ce que c'est pas, les risques. Il y a eu une étude concernant les cas de ménopause sévère qui montrait les bénéfices avérés de prendre des hormones de remplacement. Le docteur Lega et ses co-auteurs qui ont examiné des études plus récentes et estimé justement que les risques de cancer du sein ou d'AVC sont beaucoup plus faibles pour les femmes dans la quarantaine et cinquantaine, surtout si elles utilisent une hormonothérapie pendant 5 ans ou moins. Donc, j'aimerais peut-être, docteur Hercevitch, que vous nous rappeliez, c'est quoi les inquiétudes des femmes et peut-être les principales contre-indications, parce qu'il doit quand même y en avoir.
Oui. Mais en fait, je pense que c'est le bon patient au bon moment, avec la bonne thérapie. On répète toujours la même chose, mais puis c'est ce que l'étude voit à plus tard démontrer, c'est-à-dire que si on commence l'hormonothérapie trop tard, donc au-delà de 10 ans de la ménopause ou plus de 60 ans d'âge, on peut augmenter davantage certains risques, dont par exemple les risques d'AVC. Donc, définitivement, quelqu'un qui a 70 ans et qui commence l'hormonothérapie, c'est pas génial, versus quelqu'un qui est donc dans les 10 ans suivant la fin des règles ou en bas de 60 ans. C'est un peu les directives générales. Donc, l'âge d'amorce est fort important et c'est ce qu'on appelle la fenêtre un peu thérapeutique.
La durée peut-être aussi. Alors, combien de temps on prend ça?
Il y a plus de durée. Le 5 ans venait du fait que dans l'étude WAI, on voyait une augmentation de risque de cancer du sein après 5 ans d'utilisation. Ça a été aboli. Il y a encore des gens qui le partagent parce que je vois des patientes. Mais pas aussi, mais dans les cliniciens, je dis à mon pharmacien ou mon médecin m'a dit, mais donc c'est plus valide. Alors, c'est d'évaluer les symptômes, des fois d'essayer des sevrages ou des diminutions ou d'arrêt, l'hormonothérapie, voir, mais je pense qu'une patiente peut prendre les hormones quelques temps, surtout en sachant que la plupart d'elles vont avoir des symptômes qui vont durer de 5 à 8 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain. Il y avait un autre volet à votre question.
En fait, c'était les principales contre-indications.
Oui, absolument. Donc, en fait, il n'y en a pas beaucoup pour la grande majorité des femmes, mais on peut nommer essentiellement l'antécédent ou cancer du sein actif, par exemple. Antécédent ou histoire de thrombose veineuse ou embolie pulmonaire, donc des événements de coagulopathie. Donc, je vous dirais, ou d'AVC, par exemple. Alors, des problèmes hépatiques. Donc, il y a une liste qui n'est pas si exhaustive que ça et qui, oui, va s'appliquer pour certaines patientes. Puis ça, c'est surtout pour les estrogènes parce que des progestérones lactatif ou la progestérone a très peu de contre-indications, à part intolérance aux produits ou peut-être l'histoire de cancer. Mais
Pourquoi on donne les progestérones quand on donne les œstrogènes?
En fait, c'est essentiellement pour protéger l'endomètre, qui est la couche interne de l'utérus. Donc, donner des œstrogènes seuls chez une patiente qui a encore un utérus, à la longue, on va probablement développer un pré-cancer ou un cancer de l'endomètre. Ah. Alors, il faut contrebalancer cet effet-là par un progestogène, comme la progestérone micronisée, par exemple. Et donc, les patients qui n'ont pas d'utérus n'ont pas d'indication de prendre ce deuxième médicament-là, exactement.
Entendu. Madame Duplessis, est-ce que vous allez... comment vous le véhiculez, ce guide? Mais en fait, ces deux documents-là, comment rejoindre les professionnels pour qu'ils l'adoptent, finalement?
Premièrement, il y a un webinaire sur le site de l'INES qui est accessible à tous et qui est gratuit. Mais pour les professionnels de la santé, tout particulièrement, ce webinaire-là a été développé en collaboration aussi avec les deux fédérations de médecins, la Fédération des médecins et praticiens du Québec, puis celle des médecins spécialistes. Et il est aussi accessible gratuitement sur leur plateforme de formation continue respective.
Entendu.
Donc, premièrement, il y a ce webinaire-là. Évidemment, on a quelques porte-paroles de parmi les professionnels de la santé aussi qui vont présenter ou du moins parler un peu de nos outils dans différents congrès, différentes conférences aussi.
Entendu. Docteur Yatsevich, juste rapidement pour terminer, l'hormonothérapie, on commence ça quand? Est-ce qu'on peut le commencer avant ou trop tard, puis très rapidement parce qu'on termine l'émission?
Donc, comme je disais tantôt, idéalement dans les 10 ans suivant la fin des menstruations ou en bas de 60 ans, on peut aussi en utiliser en périménopause, donc quelques années avant la fin des règles, mais c'est une période
On fait ça pourquoi?
Bien, parce que les patientes ont des symptômes qui peuvent commencer plus tôt. Alors, mais c'est une période qui est un peu des fois plus difficile à gérer, puis donc c'est à bien évaluer. Donc, finalement, l'étendue d'utilisation est quand même assez
grande,
large,
hein?
Mais on n'en donne pas à tout le monde. Il n'y a pas de visée magique avec l'hormonothérapie. C'est vraiment chez des femmes qui sont très symptomatiques, qui ça impacte sur leur vie. Et essentiellement, je vous dirais, c'est ça, autour de la vraiment cinquantaine, c'est puisque largement la ménopause, exactement. Ouais. Mais ça peut être plus ou moins quelques années, bien sûr.
OK, entendu. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie du docteur Radomir Yatsevich, qui est obstétricien et gynécologue au CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal, et de Geneviève Duplessis, pharmacienne et professionnelle scientifique à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Beaucoup.
Merci.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Fanny Robertscher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Écoutez-nous, réécoutez-nous, n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous. Nous avons une page sur Science Presse, vous pouvez la consulter. Et n'hésitez pas non plus à nous écrire et à nous suggérer des sujets. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.